Alors, le sel, peut-être, voilà, la plupart connaissent, mais peut-être quelques-uns ne connaissent pas. Donc, c'est le service d'entraide et de liaison. Hein. Donc, c'est une association protestante de solidarité internationale dont le but est l'amélioration des conditions de vie des personnes ou des populations en situation de pauvreté. Et donc, le thème de cette année, c'est comment aimer son prochain, en particulier quand il fait face à la pauvreté. Alors, on ne va pas suivre la trame que le sel nous propose, hein. On aura juste à la fin quelques pistes, mais j'aimerais vraiment que nous puissions méditer et réfléchir ensemble sur la notion de la pauvreté, et puis le regarder d'un point de vue biblique. Et je prie que ce thème ne reste pas seulement intellectuel, hein. C'est quelqu'un qui disait, un écrivain, que la philosophie, c'est ce qui permet aux riches de dire que ce n'est pas un malheur d'être pauvre. Quand nous parlons de la pauvreté, il faut aussi savoir ce que les gens dans les situations de pauvreté extrême peuvent vivre. Alors n'oublions pas, mes frères et sœurs, d'y mettre de l'amour lorsque nous parlons de ce thème. Notre but, donc, n'est pas d'y méditer non plus avec pitié, hein, revêtant, vous savez, comme dit Jésus dans la parabole du bon samaritain, revêtant la robe du prêtre, du lévite, et qui devant les réalités de ce monde, eh bien, s'efface ou se tient à distance. Que le Saint-Esprit puisse nous sonder, nous interpeller et continuer son œuvre en nous de transformation. Alors, le titre que je vous propose, c'est « Être riche avec un cœur de pauvre ». On essaiera de comprendre cela, hein, afin de pratiquer cette justice. Et en trois temps, donc premièrement, c'est pourquoi est-ce que nous sommes sensibles à la question de la pauvreté. Deuxièmement, pourquoi Jésus semble-t-il valoriser le pauvre? Et puis, comment réagir face au cri du pauvre? Alors, pourquoi est-ce que c'est un thème qui nous sensibilise? Eh bien, je dirais, la première des choses, c'est que la pauvreté réveille en nous ce sentiment d'injustice. Voilà, aucun humain en réalité n'est insensible quand il est question de justice ou d'injustice. Et j'ai pu voir des fois dans des cellules les pires hommes avoir des réactions de colère devant l'injustice que les autres vivaient, hein. Et même des pires hommes être vraiment furieux face à d'autres criminels qui ont commis des choses pires qu'eux et qui étaient pourtant dans la même prison. Alors oui, combien de fois nous avons entendu même de la bouche des enfants, c'est pas juste. C'est vrai que ces quatre mots sont remplis de tension. Hein. C'est aussi pas, c'est le cri silencieux aussi de ceux qui font face à la pauvreté. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Ce n'est pas juste. En réalité, ce qu'on peut déjà définir, c'est que l'injustice de la pauvreté ou de la misère est bien réelle. Elle est même quotidienne. Et le pire, c'est qu'elle est devenue banale. Quand vous allez dans les grandes villes, nous rencontrons souvent au feu rouge des gens venir mendier quelques pièces ou un ticket repas. Sous les ponts, dans les rues, les tentes commencent à se multiplier dans des zones même désaffectées. Les files d'attente, hein, on atteint des tristes records dans les réseaux d'aide alimentaire. Et j'ai l'impression que plus nous allons dans les années qui viennent, plus nous nous projetons et plus cette pauvreté grandit. Vous savez, quand Pilate a présenté Jésus au peuple, à la foule, il a dit « Ecce homo, voici l'homme ». En parlant de Jésus qui allait être livré en pâture à la foule, eh bien, nous pourrions dire concernant le pauvre, voici l'homme livré à la pâture de la pauvreté. Et c'est vrai que la pauvreté est un sujet qui nous fait réagir parce que nous voyons des fois à travers le pauvre l'humanité qui est complètement défigurée. Hein. Le pauvre est donc la première victime d'un désordre économique, hein, qui est peut-être le résultat de son propre péché, il faut pas le nier, mais qui est surtout le résultat et le fait d'un autre ou des autres qui ont décidé de l'exploiter. Et c'est vrai que ce matin, Francis, tu disais qu'on exploite la terre. Et le souci, c'est qu'en exploitant la terre, on exploite aussi l'homme. Et ça, c'est terrible. Donc, c'est vraiment l'homme qui est déshumanisé, privé de la vie, privé de sa noble humanité. Et puis, nous sommes sensibles à la question de la pauvreté en réalité, parce que c'est une question qui nous fait peur. Car comme toute misère et déchéance, c'est à la fois attractif. Hein. On a un peu, les médias savent très bien nous attirer notre attention avec des sujets où on est un peu curieux, on voit, mais ça nous fait aussi peur. Hein. C'est le côté engrenage qui nous fait peur. Nous connaissons tous quelqu'un qui un jour a perdu son travail ou sa compétitivité, rupture familiale, et puis le cycle qui commence à arriver dans sa vie, qui se retrouve quelques temps après être un homme différent et démuni par rapport à ce qu'il était. Et le pire, c'est qu'il y a cette incapacité de sortir. Hein, et la simple subsistance devient problématique. Cette maman qui me disait un jour, nous on arrive à la fin du mois, le 10 de chaque mois, et je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Donc voici l'homme engagé dans un sens unique, les familles, les enfants, et sens unique où il est compliqué de faire machine arrière. Alors j'ai été interpellé par une enquête qui a été faite par l'Ipsos menée en 2019. Alors 2019, avant le coronavirus, avant l'Ukraine, avant la crise économique, 2019, quand tout allait bien, non, quand tout allait peut-être mieux, hein, eh bien cette étude menée par le Secours catholique a montré que 62% des personnes interrogées avaient peur de tomber dans la précarité. 62%. Mais ce qui m'a choqué, c'est la cible qui a été enquêtée. Il s'agit de 62% des enfants âgés de 8 à 14 ans. Deux tiers de nos enfants ont peur de devenir pauvres. Mais où est leur enfance? Où est cette adolescence un peu insouciante? Hein? Et puis, nous entendons souvent parmi les célébrités, la pauvreté m'effraie plus que toute autre chose. Et les gens qui viennent de milieux modestes, très modestes, sont tétanisés à l'idée de redevenir pauvres. La pauvreté nous fait peur. C'est une réalité. Et ce qui nous fait peur, c'est le cycle de cette pauvreté. Un rapport récent dit que le cycle n'a pas seulement des répercussions dans le domaine de la subsistance, mais aussi sur l'estime personnelle de la personne et l'attente concernant l'avenir. Et d'ailleurs, cette étude montre que les enfants vivant dans des foyers d'accueil sont particulièrement vulnérables à ce cycle. Alors la notion de cette crainte, elle est aussi présente dans la Bible. La Bible, quand elle parle de la crainte de l'homme, le domaine de la pauvreté est aussi quelque chose qui peut effrayer l'homme. Elle n'est pas nouvelle. Le roi David a quand même affirmé « J'ai été jeune et j'ai vieilli hein? ». Donc il devait porter des lunettes comme toi, Francis. Et en fait, David dit « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain ». Ça veut dire que c'était un souci pour celui qui suivait Dieu de dire « Mais est-ce que ma descendance va pouvoir subvenir à ses propres besoins ?» Et puis Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de votre corps. C'est la base même. Hein? Les pauvres s'inquiètent de cela. En fait, c'est une crainte dont la Bible parle. Et puis nous sommes sensibles à la pauvreté en tant que chrétiens, parce que Jésus en parle. Hein? Heureusement, hein? Il y a cette loi dans le livre du Deutéronome, hein, Lévitique, ça, et même l'Exode, qui nous demande de prendre soin des pauvres. Mais j'aime bien ce que nous dit le sage dans les Proverbes. Opprimer le pauvre, c'est outrager qui? Son créateur. Hein? Mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est honorer qui? Honorer Dieu. Ça, c'est quelque chose. Hein? Et c'est surprenant parce que Jésus est dans la même pensée. Quand il a ouvert le rouleau du livre de la loi quand il était dans la synagogue, il tombe sur ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et on voit que c'est présent dans l'esprit de Jésus, cette notion du pauvre. Devant les disciples, Jésus leva les yeux sur ses disciples et il leur dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Et devant les invités, il donne cette directive. Quand toi tu donnes un festin, invite qui? Invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, ceux qui ne pourront pas te rendre ce que tu vas leur accorder. Devant le jeune homme riche, Jésus pense à qui? Eh bien, il pense aux pauvres. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et regardez ce petit détail intéressant. Quand Judas allait livrer Jésus, il est dit dans Jean 13, 29, « En effet, comme Judas tenait la bourse, donc sorti, Jésus dit, va faire ce que tu as à faire promptement, donc pour le livrer, eh bien, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête et donne quelque chose aux pauvres. Ça veut dire que dans les habitudes de Jésus, il y avait toujours cette phrase, pense à donner quelque chose aux pauvres. Et les disciples pensaient que c'était l'ordre que Jésus avait donné à Judas. Achète quelque chose et n'oublie pas de donner quelque chose aux pauvres. En réalité, Jésus a fait plus qu'en parler. Il est allé encore un peu plus loin. Il a valorisé le pauvre. Heureux les pauvres. Ou bien, il va dire, heureux, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Évidemment, nous, on se dit, mais il s'agit des pauvres en esprit et il s'agit de ceux qui se croient riches. Non, non. Les premiers visés, c'est vraiment les pauvres. Heureux les pauvres. Et les riches sont visés. Qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. L'un des dangers pour celui qui est riche, d'avoir des richesses, c'est qu'il peut se satisfaire pleinement de toutes les possibilités que sa richesse lui propose. Je me souviens de ce qui une fois est arrivé donc dans ma famille, il y a bien longtemps, j'étais enfant et mon père est rentré à la maison tout troublé. Il travaillait à l'époque à Marseille, il travaillait 6 jours ou 7 jours sur 7 avec des horaires de 12 heures. Et il est arrivé, il était troublé. Et il a partagé ce qui était arrivé. Dans la journée, il pleuvait. Et la fille du patron est entrée dans le commerce, dans le magasin de textile. Et elle a dit, j'en ai marre de prendre le bus. Et c'est, voilà, etc. Et je suis absolument révolté. Et le père a trouvé une solution. Il a pris le téléphone. Il a appelé un concessionnaire, c'est les années 70, hein, début 70. Il a appelé un concessionnaire, il a dit, prépare-moi une voiture neuve pour ma fille demain. Et il a raccroché. Et mon père, dans sa tête, a fait le calcul. Mais combien coûterait une voiture neuve pour nous? À l'époque, je ne sais pas combien coûtait une voiture, mais le SMIC était à 500 francs. 500 francs. Le riche commande et le pauvre rêve. Hein? C'est terrible. Mais Jésus montre qu'en réalité, attention à ses richesses. Que ferait le pauvre? Il prierait pour avoir une solution, il s'adresserait à Dieu. Qu'a fait ce riche? Il a appelé, tout simplement. Donc, le riche oublie que c'est Dieu qui est celui qui accorde toute richesse. Il n'y a pas seulement la richesse de l'argent. Dieu a accordé à chacun de nous des richesses. Richesse de physique. Richesse d'une bonne éducation, richesse d'être né dans une bonne famille, richesse d'avoir un bon caractère. Il y a des chrétiens qui ont meilleur caractère que d'autres, hein? Oui, et même que des non-chrétiens ont meilleur caractère que des chrétiens, oui! C'est une richesse. Il y en a qui disent oui, qui valident, hein? C'est vrai. Amen, je sais pas si on peut dire. Ah, mais en tout cas, nous ne devons jamais oublier que nos dons vont nous sortir de nos problèmes. C'est Dieu qui nous les a accordés. Parce que si on fait cela, nous en oublions le donateur. Alors pourquoi Jésus dit-il « Heureux les pauvres » et qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu? En fait, Monica Elling, donc, qui est une universitaire, une théologienne donc, britannique, a pas mal réfléchi sur ce thème. Hein, et elle a mis en parallèle ce verset. Bon, elle a, voilà, je vous montre, ça, c'est très condensé, mais en fait, « Heureux les pauvres en esprit ». Ah, on comprend les pauvres en esprit, hein, car le royaume des cieux est à eux. Donc ça, c'est dans Matthieu, mais dans Luc, c'est heureux les pauvres. Hein. Et parallèlement, ben, malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Alors, Monica Elling explique que, eh bien déjà, lorsqu'on compare ces deux situations, on voit très bien que le pauvre, lui, reconnaît sa dépendance de Dieu et son interdépendance des autres. Le pauvre a besoin des autres. Les familles pauvres sont des familles où il y a une grande solidarité parce qu'ils savent qu'ils ont besoin les uns des autres. Par contre, le riche, lui, il cherche à être indépendant. Et puis, la deuxième des choses qui ressort de cette étude, c'est que le pauvre, lui, va placer sa sécurité non pas dans les choses, mais dans les personnes. Par contre, le riche, lui, eh bien, va placer sa sécurité dans les systèmes, la banque, la bourse, etc., et dans les institutions. Alors, je me souviens de quelqu'un qui était, on l'appelait Monsieur Million, hein, parce qu'il était à la tête d'une grande union d'églises, et donc américaine, hein, et j'ai pu discuter avec lui. Avec mon anglais, you speak French, yes, no, speak English. Ok, donc on s'est débrouillé. Et en fait, gérer une telle somme que la première des choses qu'il faisait le matin en se levant, c'était de consulter le cours de la bourse. Ah, ça m'a un peu choqué. Hein, avant la Bible. Bon. Et il disait que tous les dons qu'il faisait dépendaient du cours de la bourse. Alors quand il y a eu le subprime, le problème subprime aux États-Unis, les dons, bien sûr, évidemment, se sont effondrés. Hein. Il se confiait dans la bourse. Mais c'est Dieu qui donne. Hein. Le pauvre, eh bien, se distingue parce que déjà, il distingue les biens de première nécessité aux biens de luxe. Alors que le riche, lui,
le jour où je suis arrivée, le lendemain matin, je me réveille et justement, il y a le petit voisin et nous.
C'est normal de vivre dans le luxe, hein, et manque de reconnaissance. Le pauvre, donc, aussi, lorsqu'il entend l'évangile, ça résonne pour lui comme une bonne nouvelle. Et vraiment, l'évangile touche les pauvres. Il y a plus de conversion dans les populations pauvres que dans les populations aisées. Donnez des calendriers. Pour frapper au port des maisons. Hein. Les maisons les plus chics n'ouvrent pas la porte, ils n'ont besoin de rien. Alors que les maisons les plus modestes accueillent la parole de Dieu. Hein. Alors je ne dis pas que Dieu est contre les riches. Je ne dis pas cela. Je dis qu'il y a un état d'esprit, une situation qui fait que l'évangile est accueilli. Le riche, lui, voit l'évangile comme une menace. Un de nos amis avait un père, et ce père était troublé par le fait que Jésus avait dit au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ça l'a tellement troublé qu'il a rejeté l'évangile. C'est quelque chose. Parce que c'est une menace pour le bien-être que l'évangile. Et bien sûr, les pauvres, eh bien, en acceptant l'évangile, n'ont pas grand-chose à perdre. Ils ont tout à gagner. N'est-ce pas? Et le riche lui calcule combien ça va le coûter. Si tu es riche, te casse pas la tête, hein? Va voir notre trésorière après, ok? Bon. Non, l'idée, bien sûr, évidemment, hein, il ne suffit pas, disait quelqu'un, il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Nous ne sommes pas en train de dire cela. Hein? Mais le pauvre, en réalité, prend rapidement conscience de sa vulnérabilité et du besoin de Dieu. Ne soyons pas étonnés que les méchants, que les pécheurs et les pauvres sont venus plus nombreux à Jésus que les riches. Car ils étaient conscients de leur fragilité et leur vulnérabilité. il y a un point commun entre le marxisme et le christianisme. Ah, c'est que tous deux disent que la pauvreté a un aspect salutaire qui pourtant doit être éliminé. Il y a quelque chose qui fait que le pauvre, eh bien, cherche un salut. Alors Jésus a mis en avant le pauvre. Mais Jésus a encore fait plus que le mettre en avant. Il en a parlé, il a mis en avant et il est allé encore plus loin. Jésus s'est identifié au pauvre. Comment ? Calvin appelle ça le mystère du pauvre. Dans Matthieu 25, Jésus explique ce qui va advenir. Le roi dira, voilà, vous, vous êtes rejetés parce que j'ai été en prison, etc. Et tout. Mais vous, vous êtes bénis de mon Père, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. Malade, vous m'avez soigné. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Et les justes demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous fait cela? Quand avons-nous vu? Et le roi répondra, eh bien, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Quand tu croises un pauvre, c'est peut-être Jésus. Quand tu croises quelqu'un qui est dans une situation de fragilité, c'est peut-être Jésus. Pour Calvin, Jésus fait ici un honneur inestimable aux pauvres en les nommant ses frères et en s'identifiant à eux. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Alors l'expression « au moindre de mes frères que voici » a fait débat. Certains pensent qu'il s'agit des frères en l'humanité, d'autres pensent qu'il s'agit des frères d'Israël, du peuple d'Israël, donc issus de sa lignée, et d'autres pensent que ses frères, c'est plutôt les personnes de l'Église, les frères et sœurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jésus dit « vous avez toujours les pauvres avec vous, vous les aurez toujours ». Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Eh bien, si nous n'avons plus Jésus physiquement avec nous, eh bien, nous ne pouvons plus rien offrir, sachant qu'il y a son représentant, qui est le pauvre, à qui nous pouvons offrir quelque chose. Alors, ceci dit, maintenant, comment est-ce que nous devons réagir face au cri du pauvre? Et là, quelques indications précieuses nous est donné du sel. Tout d'abord, une chose qui est extraordinaire, c'est de nous inspirer de l'Église primitive. Qu'a fait l'Église primitive? Qu'ont fait les premiers chrétiens qui se sont réunis? Eh bien, quand l'Église est née, la première organisation était de partager les biens, afin qu'il y en ait pour tout le monde. Et vous savez qu'il y a une étude qui a été faite sur les églises qui croissent en nombre et en maturité. Ils se sont rendus compte que les riches de cette église, eh bien, étaient considérés comme les pauvres, pas plus, et les pauvres comme les riches. Et les riches donnaient afin de régler cette injustice. Au-delà de l'idéal qui anime cette jeune communauté, nous dit le sel, c'est bien les prémices donc d'un diaconat qui s'annonce en pratique donc de la justice interne à l'Église. Nous sommes attachés les uns les autres par Jésus. Nous devons d'abord nous aimer les uns les autres par Jésus. Nous sommes dépendants de Dieu et une communauté. C'est un Dieu qui doit offrir secours et renfort aux plus forts, aux plus faibles, tant sur le bien matériel que relationnel que spirituel. La deuxième des choses sur laquelle le sel nous donne une piste, c'est dénonçant l'injustice. Si le chrétien ne dénonce pas la justice, qui le fera? L'injustice, qui le fera? L'Église doit avoir son côté prophétique. Les prophètes se levaient pour dire, ce n'est pas juste ce que vous faites. Bon, bien sûr, ils n'accueillaient pas que des roses et des fleurs, n'est-ce pas? Quand le droit du pauvre est bafoué, le droit de la veuve est opprimé, quand il s'agit d'avoir un regard sur le migrant, quand la vie n'est pas respectée, l'Église doit dire quelque chose. Elle a son mot à dire. Jésus a très bien dénoncé les scribes et les pharisiens, ceux qui ont usurpé de leur rôle. L'Église doit garder son rôle. Alors maintenant, on peut dire, oui, mais on ne peut pas répondre à toute l'injustice. Hein. Si tu vas dans une grande ville, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te demander une pièce tous les 10 minutes. Mais rien ne nous empêche de se dire, ben, je vais donner une pièce à peut-être la première ou deuxième ou troisième personne. Et puis, je ne suis pas obligé de donner une pièce ou un petit billet. On peut acheter un sandwich, on peut offrir un café. On peut aussi donner cela avec le Nouveau Testament. Ne soyons pas seulement bienveillants virtuellement. Hein. Sachons aussi que nous allons pouvoir aussi rencontrer. Ce que nous aimons faire avec Annie, hein, c'est quand on nous demande, en général, quand les enfants viennent et qu'ils toquent à la vitre de notre fenêtre, donc des voitures à Marseille, ils nous demandent une petite pièce. Eh bien, ce qui est bien, c'est que Esther, elle a un stock de bonbons dans la voiture et puis on pioche dans ce stock. Vous pouvez pas vous imaginer la joie de cet enfant d'avoir eu des bonbons. Et c'est aussi une manière de leur dire, mais on est là, hein, et que Dieu te bénisse. Oui, dénonçons l'injustice. Et puis une troisième piste, c'est encourageons la solidarité. Le CEL nous propose de soutenir de façon équitable certains projets dans certains pays où la pauvreté est très accentuée. Protéger la création de ceux qui habitent, renforcer les capacités des pauvres. Quand le CEL permet à ses partenaires de financer des formations ou des auto-entreprises ou des choses concrètes. Aujourd'hui, on a décidé avec le Conseil de répondre à l'urgence de la crise alimentaire. Ça aussi, c'est une manière d'encourager la solidarité. Et puis, nous devons aussi, bien sûr, ne pas oublier que nous avons à faire face à ce qu'on appelle donc ça c'est divers actions. L'expérience de la grâce. Nous avons été sauvés par grâce. Lorsque Jésus est rentré chez Zachée, Zachée a compris. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai. Hein, je vais m'occuper des autres. Et n'oublions pas que nous sommes tous des endettés. Nous avons tous des dettes vis-à-vis de Dieu. Quand nous prions, pardonne-nous nos offenses. En réalité, la juste traduction, c'est remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous remettons à nos débiteurs. Le Nouveau Testament grec ne dit pas pardonne-nous nos offenses, mais il est question de remets-nous nos dettes. Quelque part, il est vrai que nous sommes tous des pauvres. Quand nous affirmons que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, il faut comprendre, c'est pour nos fautes. Mais il y a aussi un autre aspect. Jésus est mort à la croix pour payer nos dettes. Parce que nous devions à Dieu quelque chose. Alors, si Dieu nous a remis nos dettes, nous devons nous aussi être durs envers les autres. Il est pauvre, c'est bien fait pour lui. Mais absolument pas. Regardez ce qui arrive dans cette parabole à cet homme à qui son roi avait remis sa dette. C'est pourquoi, dit Jésus, le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer. Tu as de quoi payer ta dette envers Dieu? Moi, je ne l'ai pas. Comme il n'avait pas de quoi payer, on lui amena, donc cet homme, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Aïe. Aïe. Mes frères et sœurs, quand on parle du pauvre, nous sommes concernés. Nous sommes tous concernés. Dans quel pétrin on s'est mis? Dans quelle situation critique? Nous voulions devenir notre propre maître. Dans un jardin où on vivait dans l'abondance et dans la richesse, on s'est dit, si nous devions, nous, projeter notre avenir et prendre en main notre vie, nous serions tellement plus heureux et plus riches. Vous savez ce qui me surprend? C'est qu'on est encore toujours dans cette même mentalité. Aujourd'hui, on exploite la Terre. Pourquoi ? Pour aller vivre sur Mars. Parce que la vie serait meilleure là-haut. Mais yo, où est notre folie ? En voulant devenir notre propre maître, on s'est non seulement coupé du Créateur, mais on s'est rendu pauvre. Et qu'a fait Jésus ? Il s'est rendu pauvre pour nous, afin de réduire nos dettes. Et comme d'habitude, quand un pauvre est dans les problèmes, comme d'habitude, il faut qu'il ait un ami bienveillant qui vienne le tirer de là. Notre ami bienveillant, c'est Jésus. C'était la seule manière de régler notre problème d'endettement. Sommes-nous conscients ? Vous savez quel est le problème que nous avons avec les pauvres ? Quelque part, quand nous leur donnons quelque chose, nous pensons que nous sommes supérieurs à eux. C'est une erreur. C'est un privilège pour nous que de pouvoir leur donner. Si nous les considérons comme inférieurs à nous, je crois que nous n'avons pas compris l'évangile. Et c'est cela, être riche avec un cœur de pauvre. C'est se saisir de la grâce de Dieu avec toutes les implications que ça a. Quand j'ai l'occasion de donner à quelqu'un, je devrais bénir Dieu de ce qui nous donne l'occasion de faire quelque chose pour lui. Et Jésus n'a pas oublié cela. C'est pourquoi il a dit, à chaque fois que vous faites cela au plus petit d'entre les miens, à ceux que l'on néglige, à ceux que l'on méprise, à ceux dont on n'entend même pas la voix, c'est à moi que vous le faites. 2000 ans après, on pourrait comprendre que cet élan d'enthousiasme se soit émoussé, mais il ne doit en être rien chez les chrétiens. Car Jésus, notre justice, celui qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches, hein, est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit ne s'épuise pas et les commandements de Dieu ne sont pas annulés. Pratiquons donc la justice à l'égard du plus pauvre, ancrée dans la reconnaissance et la joie de celui qui se sait justifié par la grâce de Dieu, animé par l'amour du prochain. Un jour, Jésus reviendra. Il a dit, il le fera. J'espère qu'il verra en nous des riches avec un cœur de pauvre. Un cœur qui comprend qu'il dépend de Dieu avant tout. Tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Et tout est grâce. Tout est grâce. Et Job l'a bien compris. Hein? Job l'a bien compris. Tout peut nous être tellement enlevé comme ça. Alors, puissions-nous toujours et davantage être dépendants de Dieu.